7h36 minutes, on va aller voir ce qui se passe sur la route, mon ami. 418-971-1021, 418-971-1021, max.
Ça se complique pour ce qui est des points chauds habituels. Capitale Ouest, un peu avant Beauharnais jusqu'à Laurentienne, par vous, là, c'est au ralenti. Sur Laurentienne Sud, je dirais que ça commence à ralentir dans le coin du boulevard Louis XIV, là, à peu près, puis jusqu'à Capitale, il y a des petits ralentissements. Robert Brassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, le ralentissement habituel. Sinon, il y a Capitale Est, hauteur. Hauteur de Robert Bourassa, où là, il semble y avoir quelque chose qui se passe parce que c'est au ralenti. Henri 4 Sud, hauteur Chauveau, ralentissement habituel aussi dans ce secteur-là. Plus haut, vers Shannon, dans le coin de l'entrée de la base militaire, c'est au rouge foncé sur la carte, fait que préparez-vous à ralentir pas mal. Et l'accès aux deux ponts direction nord, toujours des complications.
Jeff, il y avait des articles des journaux la semaine dernière qui nous disaient que dimanche, le prix de l'essence allait tomber de 13 cents.
Moi, j'étais content parce que je faisais un aller-retour à Laval pour un tournoi de hockey, alors je m'étais dit ça va me coûter moins cher d'essence. Oui. Mais quand je suis allé hier à la station-service, bon, 1,79 le litre d'ordinaire.
Moi, j'étais à Saint-Pamphile. Fait que j'ai mis
toi, ça a été moins cher.
1,69
Mais c'est ça.
Et puis, là, deux semaines, c'était la même affaire. Dimanche, le prix de l'essence va baisser. Fait que là, je m'étais fié à nos experts, puis j'en avais parlé.
Ben oui.
Il y a des auditeurs qui m'ont dit, Yann, le prix de l'essence n'a pas baissé.
Non.
Puis, le jour d'après, lundi, les experts disent, ça va dropper de 13 cents. Finalement, ça n'a pas fait ça. Hein.
Ben non, parce que, tu sais, Donald a bien beau nous dire « Je négocie avec l'Iran, ça va bien. Il y a des grands pétroliers qui vont traverser le détroit d'Ormuz. Il y en a 20. » Tu sais, quand un président est rendu à dire « grand pétrolier », d'après moi, il y a des derniers retranchements. Là.
Ça se peut. Donc, pour ce qui est de Québec, là, le prix le plus bas est à 1,69 $. C'est au Costco que vous allez retrouver ce prix-là. Sinon, ça tourne autour de 1,71 $, 1,79 $. Bon, on parle d'essence, on parle de pétrole. Puis David Chabot vient de rentrer dans la place, notre chroniqueur politique international. Salut, David.
Salut.
Content que tu sois là, mon ami. Ça brasse encore. Finalement, est-ce que c'est une rumeur, ces fameux pétroliers qu'on allait laisser passer? Est-ce qu'ils ont passé? Ça va-t-il avoir un impact sur notre essence?
Premièrement, regardons toujours le prix du baril de pétrole qui est rendu au-delà de 100 $ ce matin. Donc ça, c'est le principal indicateur de ce que les marchés pensent de la suite du conflit. Donc ce que le marché nous dit, c'est que depuis une semaine, on a augmenté le prix du baril d'environ 12%, ce qui veut dire qu'on ne pense pas que la guerre est sur le bord de se régler, puis on ne pense pas non plus que l'or noir va circuler facilement. Donc, pour revenir à ces 20 méga, ces big beautiful pétroliers-là, est-ce que c'est une concession de l'Iran? Est-ce que c'est une escorte particulière des navires américains qui a fait en sorte qu'ils ont passé et ils s'attribuent ce succès-là? C'est dur à dire quand même de notre posture à nous autres.
Mais ils ont passé, tu as la confirmation qu'ils ont passé.
Ben écoute, je suis pas allé physiquement sur place. On se comprendra qu'en fin de semaine, je suis allé plus chez Costco, sauf que il y a effectivement ces reporting-là, qu'il y a des navires qui passent, puis il y a comme une espèce de channel spécial qui se passe en ce moment, c'est que il y a quelques îles en bordure de la côte iranienne, puis c'est dans les eaux territoriales iraniennes. Puis il y a des navires qui passent par là, pétroliers ou de transport de marchandises. Puis c'est comme une espèce de track pas facile à opérer. C'est comme le fleuve du Québec, ouais, le fleuve Saint-Laurent. Donc là, ça prend un channel particulier, sauf qu'il y a beaucoup de navires qui passent là que c'est vraiment moins simple que dans le channel régulier. Donc là, ce qu'on détecte, là, c'est que il y a certains pays qui ont des négociations en parallèle avec l'Iran pour dire « Hey, laisse donc passer mes bateaux, moi j'ai rien à voir avec tes histoires. » Mais là, l'Iran dit « Ben, pas de trouble, mais passe dans mon channel à moi, fait comme ça, je sais que c'est toi. » Donc là, il y a ça qui se passe en ce moment. Mais là, les pétroliers que Donald Trump parle sont de pavillons de quel pays? Dur à dire, honnêtement. Là. Donc, dans ces histoires, c'est jamais clair exactement qu'est-ce qui se passe pour vrai.
Est-ce que c'est encore la seule carte que l'Iran détient, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz, puis après ça, c'est fini?
Ben, il y a aussi, vous en parliez tantôt, là, les usines de désalinisation.
Dessalement?
Il est 7h40 pour tout le monde.
Dessalé?
Usines qui enlèvent le sel.
Okay. Pour créer de l'eau potable.
C'est ça, exact. Ça, c'est extrêmement critique pour la région. Évidemment, il y a des solutions parallèles si jamais les usines se font tout péter, sauf que c'est vraiment, vraiment critique de dire qu'il faut les maintenir en ordre. Puis ça, l'Iran démontre une volonté d'aller vers là, puis ça, c'est sa vraie grosse carte parce que malgré tout ce que le gouvernement américain dira, ils ne sont pas capables d'arrêter tous les drones et les missiles balistiques. Donc, si on décide de ne pas viser des cibles militaires comme c'est passé dans les dernières semaines, mais viser des cibles civiles comme des usines de traitement des eaux, puis de production d'électricité, là, ça va devenir vraiment grave dans la région. Puis c'est ça la vraie carte nucléaire, si on veut, de l'Iran. Le détroit d'Hormuz, c'est comme l'espèce de nouvelles showbiz, mettons. Là. C'est ça qui frappe le front page des journaux.
Ouais, sauf que ça touche le monde au grand complet.
Là. Absolument. Parce que on le rappelle tout le temps, c'est 20% du pétrole mondial qui passe par là. Donc là, ce que j'ai hâte de voir, c'est que là, on commence à parler d'invasion terrestre. Donc là, on s'en est parlé depuis quelques semaines que les États-Unis avaient envoyé des milliers de Marines par des transports de troupes. Là, ça y allait tranquillement. Puis on se dit, il y a un premier 2000 qui est en route. Là, il vient d'arriver, il y en a un 2500 qui est en route. Là, la semaine passée, on se parlait des Airborne. Là, je pense que c'est le 82e régiment qui est rendu sur place. Donc là, au bon an, mal an, là, il y a environ 10 000 soldats américains dans cette région-là. Ce qui est largement insuffisant pour envahir l'Iran, là, on se comprend. Pour envahir le pays de l'Iran au complet, ça prendrait probablement 400 000 soldats américains. Là. Donc, on n'est vraiment pas à bonne place. Cela dit, je pense que, en fait, je vais me contredire moi-même, on est à la bonne place parce qu'il ne faut pas envahir l'Iran physiquement parce que là, ça va donner vraiment un shit show encore pire que l'Irak en 2003. Mais qu'est-ce que ça va donner, dans le fond, d'avoir ces soldats-là? C'est probablement sécuriser les bases militaires du secteur, mais peut-être d'avoir une attaque sur l'île de Karg, qui est quand même assez discutée. Là. Donc ça, c'est comme une espèce de méga-île de raffinerie puis de port pétrolier dans le secteur qui appartient à l'Iran. Il y a environ 10% du PIB de l'Iran, 10 et 15% qui passent là. Donc c'est environ 40 milliards de pétrole qui passent par année sur cette île-là. Fait que si Donald Trump, il pèse sur le piton et il dit « j'envoie les Airborne là-bas pour prendre l'île », ça fait quand même mal au budget. Là. Ça va être tough à balancer à la fin de l'année.
Est-ce qu'on a sous-estimé l'Iran? Peut-être d'attaquer les usines d'eau. Ils ont attaqué une base militaire. On a vu un avion être complètement sectionné. Je m'attendais jamais à ce que l'Iran ait ces moyens-là.
Ben, je suis d'accord avec toi. Qu'ils répondent, c'était. On pouvait le présumer, dans le fond, en juin dernier, ça s'était passé. Mais qu'ils résistent à autant de frappes aussi longtemps, puis qu'ils soient capables de contrôler le peuple aussi, parce que le peuple n'est pas sorti dans les rues vraiment non. Depuis ce temps-là. Puis moi, je les blâme zéro, là. Je veux dire, si c'est la guerre chez vous, ça te tente pas
et
trop
de. Et Trump comptait là-dessus.
Oui. Oui, puis tu sais, le vrai plan, on ne l'a jamais su vraiment du côté des Américains. Qu'est-ce qu'on voulait de cette guerre-là? Parce que, tu sais, là, en ce moment, là, tout le monde est comme, comment on peut arrêter la guerre? Tu l'arrêtes juste parce que tu y vas plus, là, on se comprend. T'sais, si Donald Trump, il dit ce matin, regarde, c'est fini, on remballe puis on retourne chez nous, il n'y a plus de guerre, c'est fini.
Mais en même temps, quels étaient ses objectifs puis quels sont les buts atteints à l'heure actuelle, personne ne sait.
C'est ça. Puis là, le danger de l'escalade est réel parce que, dans le fond, là, on fait des frappes quand même massives puis ça fait pas bouger l'aiguille. Là. T'sais, le régime, oui, il y a des têtes dirigeantes qui sont morts, là, mais... Outre ça, ils sont encore là, puis eux autres, ils disent « Moi, je vais continuer à amener ma business comme d'habitude. » Fait que là, il faut que tu augmentes l'intensité, il faut que tu fasses quelque chose de nouveau pour essayer de faire bouger l'aiguille. Puis là, c'est tout le temps ça, dans le fond, le risque dans un conflit, c'est l'escalade. Puis là, je vous parlais de l'île de Karg. Si les Américains prennent contrôle de cette île-là, c'est nucléaire pour l'Iran, là. C'est vraiment extrêmement grave, parce que tu perds un actif terrestre, puis en plus, des usines, puis tout ça. Donc là, le conflit va prendre une autre proportion. Puis je pense que l'Iran a une carte cachée qui n'est pas encore 100% activée, puis c'est le terrorisme international. On s'en parlait la semaine passée, Yann, tu disais le terrorisme, les cellules dormantes, là. Ben ça, je présume qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'actifs à travers la planète qui sont dormants.
Ah, puis il y a quelque chose de stressant, là, c'est que encore là, ciblez pas ces gens-là, mais il y a énormément d'Iraniens ici au Canada. Mm-hmm. Une belle grosse communauté. Il y a des familles des dirigeants iraniens qui ont été tués, qui habitent maintenant au Canada. Le Canada était très accueillant envers les Iraniens. C'est assez particulier, là.
Ouais, puis disons-le, faut pas partir en peur que tous les Iraniens, c'est des terroristes, là, c'est pas ça, bandit. Mais dans le flot de gens qui ont vécu l'oppression, qui sont venus ici, peut-être qu'il y en a ici ou ailleurs, tu sais, des...
Je te pose une question comme ça. Ton père est un haut dirigeant iranien, puis toi, t'es au Canada, puis là, tu te rends compte que les Américains viennent de tuer ton père, t'es en voyage à Miami, qu'est-ce qui te passe par la tête?
Ouais, c'est pas mal de se venger, hein. Puis c'est comme ça que la guerre en Afghanistan a duré 25 ans. Parce qu'on était à 20 ans. On est arrivé là en 2001, puis faire le ménage des talibans, ça a pris deux semaines, là, c'était pas long, là. Mais après ça, de convaincre tout le pays, dont les talibans, que finalement c'était la démocratie la meilleure chose depuis le pain tranché, ça a pas vraiment bien été, là. Fait que là, tuer du monde pour les convaincre que ta démocratie, c'est la meilleure chose, c'est pas vraiment le meilleur move marketing en général, là. Puis c'est ce qu'on risque de faire avec l'Iran, puis on s'en parle ensemble souvent. Tu sais, le point de bascule, finalement, c'est de ne pas perdre le peuple iranien dans la cause contre le gouvernement iranien. Donc là, si les États-Unis démontrent une volonté d'envahir le territoire iranien, là, ça peut sonner des cloches à bien du monde localement de se dire « Hey, attends un peu, là, c'est-tu l'impérialiste américain? » Puisque le gouvernement me dit depuis des années que les Américains, ils veulent juste bâtir un empire à nos frais. C'est-tu vrai, ça? Puis là, tu mets un doute. Puis là, oups, finalement, l'appui au gouvernement commence à être un peu mieux. Puis là, ça finit que tu as perdu le peuple iranien pour essayer de faire une révolution, tu sais. Parce que là, le changement de régime va passer par ça. À moins qu'on envoie justement des centaines de milliers de troupes, ce que j'y crois pas, là. Donc là, si on veut changer la tête dirigeante, ce qui, j'espère, est encore l'objectif américain, ben il faut qu'il se passe de quoi sur le terrain, puis ça vient avec l'opposition, là.
Mais en même temps, il y a eu énormément de manifestations du peuple au début de l'année. Ça n'a pas fait changer le régime. T'sais, au contraire, il y a des milliers de personnes qui sont décédées, là, qui sont mortes, qui sont assassinées.
Oui, puis ça, c'est peut-être une... Puis encore une fois, c'est facile à dire avec le recul, là, mais c'est une faille, je pense, du renseignement américain de ne pas avoir vu ça arriver, ou encore de s'être mal ajusté. Parce que c'est là qu'il fallait frapper. Parce que là, tu avais du peuple dans les rues, puis tu avais le gouvernement qui tirait sur le peuple. Puis là, tu avais une justification en béton de dire « Hey man, on va faire le ménage, c'est fini cette histoire-là. » On a laissé passer entre 10 et 30 000 personnes qui sont mortes dans cette histoire-là. On ne saura jamais le vrai chiffre. Puis là, ils sont retournés chez eux, puis ils ont dit « Hey man, sais-tu quoi, quand je vois dans les rues avec une pancarte qui dit « Abat le régime », je me fais tirer dans une balle dans la tête, fait que ça se peut, j'y retourne pas. » Puis là, 6 mois plus tard, là, les Américains débarquent, l'Israël aussi, on bombarde tout ce qui bouge. Puis là, finalement, on se fait dire « Retournez dans les rues, vous allez voir, ça va bien se passer. Mais... » Ben, je sais pas trop, mon homme, si c'est vrai ce que tu me dis là.
Ben non, mais c'est vrai, tu sais, j'ai vu quelqu'un mourir à côté de moi, je retournerai pas dans la rue.
Ouais, parce que... Tu sais, au Québec, on le dit souvent, on est privilégié malgré le fait qu'il y a des trous dans les rues et que les hôpitaux, c'est long. Là, on n'a pas besoin d'aller dans les rues avec un AK-47 pour défendre nos droits, tu sais. Mais si ça arrivait demain matin, là, tu y penses en deux minutes là, avant de sortir avec la pancarte pour dire « à bas le régime » quand, mettons, l'armée fictive du Québec dit « Hey non, c'est-tu quoi? Si tu sors, je te tire à coup de ma mitraillette. » Le peuple est extrêmement courageux. Puis je pense qu'il y a encore un mouvement de résistance qui est très fort, bien qu'il y a certainement beaucoup de têtes dirigeantes qui ont été assassinées dans cette période-là. Mais là, sur quoi Trump s'appuie, c'est pas clair.
Donc pour l'instant, il n'y a pas de sortie de crise possible selon toi?
Non, parce que là, si on commence à évoquer justement des troupes au sol, c'est pas pour finir le conflit, c'est pour l'accentuer. Okay.
Dans un autre dossier, les Houthis du Yémen qui ont décidé d'attaquer Israël?
Ouais, ça, c'est un peu, comment je dirais? Tu sais, le Hamas longtemps a été quand même une force dominante en Palestine puis dans la région. Le Hezbollah reste quand même un grand risque au Liban. Les Houthis, ça fait 10 ans qu'ils sont en guerre contre l'Arabie Saoudite au Yémen. Là. Fait qu'ils n'ont plus beaucoup de puissance, de choses à faire. Là. Je vous dirais que eux autres se sont fait faire le ménage dans leur régime. Donc là, c'est un appui peut-être un peu plus symbolique de dire « Hey, c'est-tu quoi? Assez, là, basta de l'Israël dans le secteur. Nous autres, on veut qu'il arrête d'exister. » Mais ça revient à la racine de tout ce conflit-là. Israël, dans le fond, on pense que c'est un moteur idéologique de cette guerre-là, de dire aux États-Unis « Hey, embarque dans le wagon, là, on s'en va faire le ménage en Iran. » Mais le fondement d'Israël là-dedans, c'est de dire « Je veux juste exister. » Puis il y a beaucoup de pays de la région, dont l'Iran, qui n'ont jamais reconnu l'existence même du pays de l'Israël. Excusez-moi. Donc là, les Houthis sont dans cette mouvance-là, sont financés fortement par l'Iran, puis c'est du terrorisme chiite. Là. Donc là, c'est une menace symbolique, finalement, c'est de dire « On va vous attaquer, mais ils n'ont plus vraiment de capacité de le faire depuis plusieurs années. » Donc là, c'est des headlines dans le journal, mettons. Là. Ça s'ajoute finalement dans le débat, mais je pense qu'à l'inverse, ils vont se faire frapper assez vite par Israël parce qu'ils vont dire « Hey man, je ne prendrai pas de chance, puis vous en reprendrez pas de la force en dessous de moi. Là. Je vais participer à vous frapper sur la tête. »
David Chabot, un gros merci. On se reparle la semaine prochaine.
Merci, monsieur.
Salut, mon ami.
Salut.
Max en manchette. Les news 102.1. On est le 30 mars 2026. Qu'est-ce que tu nous apprends?
La Ville de Québec va rendre sous peu obligatoire l'utilisation des sacs en papier pour la collecte de feuilles, tel qu'annoncé dans son dernier budget. Le journal qui a appris qu'un changement au règlement de l'agglomération sur la gestion des matières résiduelles a été entériné vendredi par le comité exécutif de la Ville et doit être voté au conseil municipal de demain. Changement qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain, mais une période de grâce sera appliquée jusqu'au 1er avril 2027. Et c'est à partir de ce moment-là que la Ville n'acceptera pas que les feuilles et les résidus verts déposés en vrac ou dans des sacs de papier. En fait, pas autre chose que ça. Quelques centaines de citoyens ont manifesté samedi contre l'abattage d'environ 1500 arbres liés aux travaux du tramway. Les participants qui défilaient sur le boulevard René-Lévesque où plusieurs arbres doivent être coupés. Le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec, Stéphane Lachance, ainsi que la candidate du Parti conservateur du Québec dans la pelleterie, Maïté Blanchette Vézina, ont pris part à la mobilisation organisée par Québec mérite mieux. Ils réclament une pause de travaux tant que le financement final du projet ne sera pas confirmé. Et on parle parlait avec David Chabot de la situation États-Unis, Iran dans les dernières minutes. Donald Trump qui en a rajouté sur Truth Social en mentionnant que les États-Unis sont en pourparlers sérieux avec un nouveau régime plus raisonnable afin de mettre fin aux opérations militaires. Mentionne que des progrès considérables ont été réalisés, mais si pour une raison ou une autre un accord n'est pas conclu et si le détroit d'Hormuz n'est pas immédiatement rouvert, nous mettrons un terme à notre agréable séjour en Iran en détruisant complètement toutes leurs centrales électriques, leurs puits de pétrole et l'île de Karg que nous avons délibérément épargnés jusqu'à présent.
Bon lundi, c'est moins 2 degrés sur Québec, tout dépendant où vous êtes, là, il neige ou encore il pleut, ça va mettre énormément d'eau sur le circuit routier. Faites attention aux piétons, les amis, faites attention, ça peut glisser aussi encore à l'heure actuelle. C'est généralement nuageux pour aujourd'hui, un 2 cm annoncé, total tout, c'est ce qu'on nous mentionne. Même chose pour ce qui est de demain, un autre 2 cm annoncé qui devrait se passer probablement juste en matinée demain. Par la suite, ce sera un ciel dégagé, des températures stable à près de moins 1. Et mercredi, nombril de la semaine, ce sera nuageux avec 40% de probabilité d'averse de neige, maximum de plus 4.
On est dans une heure de pointe que je qualifierais d'habituelle pour un lundi, un peu d'attente pour la porte et pont de Québec Nord. 40 Est entre Duplessis, Henri IV, un petit peu de rouge aussi. Capitale Ouest, c'est entre Beau-Royal et Laurentienne que c'est au ralenti. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, ralentissement habituel. Et Henri IV Sud, petit ralentissement hauteur Chauveau Ouest.
Denis Gravel s'en vient pour le pit stop dans quelques secondes.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation,